Les mystères du Palais Royal. Première partie. Le diable. Chapitre 10. La vision. Raoul avait passé la journée dans des alternatives de somnolence lourde et d'agitation fébrile. Depuis le matin, une idée fixe dominait ses songes et se mêlait à son délire. Cette idée fixe, c'était l'image de la reine Balkis absorbant sa pensée entière. Son regard ne la quittait pas d'un instant. Son cœur l'appelait et ses lèvres lui parlaient tout bas. Maintes fois, comme le matin, la gracieuse apparition lui avait semblé se déplacer et marcher vers lui, car cette illusion se renouvelait aussitôt que Jeanne entrait dans la chambre. Cependant, le soir approchait. La jeune fille venait de préparer la potion calmante dont le médecin avait laissé la formule. À cette potion, elle avait mêlé le tiers de la liqueur brune du flacon. Elle ouvrit doucement la porte et fit quelques pas vers le lit, en étouffant le bruit de ses pas, afin de ne point réveiller le chevalier si par hasard il dormait. Raoul, en effet, avait les yeux fermés. Jeanne s'avança jusqu'à son chevet. Elle plaça sur une table la tasse de faïence grossière qui contenait le breuvage miraculeux, et, comme les ténèbres naissantes envahissaient la salle basse et ne lui permettaient pas de bien distinguer les objets, elle se pencha si fort sur Raoul endormi que son visage touchait presque le visage du jeune homme. « Comme il est pâle !» pensa-t-elle. En ce moment, le chevalier ouvrit les yeux. En même temps, il poussa un cri de joie. Cette fois, il ne se trompait point. C'était bien sa vision chérie, et si près de lui qu'il n'avait qu'à étendre le bras pour la serrer contre sa poitrine et s'assurer qu'il n'était nullement le jouet de quelque fantôme décevant. Raoul étendit donc les bras et les referma vivement. Mais il n'embrassa que le vide. Jeanne, devinant le mouvement qu'il allait faire, s'était reculée soudain avec un peu d'effroi, et elle se trouvait déjà à 3 ou 4 pas du lit. « Ange, ou fée, murmura Raoul, pourquoi me fuyez-vous ainsi ? » Jeanne se rapprocha aussitôt et répondit « Mais, monsieur, je ne vous fuis pas. Je vous soigne, au contraire, et de mon mieux, je vous assure. » « Vous me soignez ? » répéta Raoul avec étonnement. « Mais sans doute. Vous êtes donc une femme. » « Et que serais-je, s'il vous plaît ? » demanda la jeune fille avec un demi-sourire. « Une fée, un ange, un bon génie, comme je le vous disais tout à l'heure. » « Hélas, je ne puis prétendre à aucun de ces noms si doux. Quoique j'espère bien devenir pour vous un ange, en vous apportant la guérison. » Une femme, répéta Raoul pour la seconde fois, avec une expression bien marquée d'incrédulité. Non, vous n'êtes pas une femme. Vous croyez ? Fit Jeanne avec un nouveau sourire. J'en suis sûre. Comment ? J'ai vu. Quoi donc ? Votre transformation, votre métamorphose. Jeanne répéta ces deux mots qui ne présentaient aucun sens pour son esprit. Raoul reprit. « Je vous ai vu. Lorsque figure d'abord inanimée et muette, vous êtes devenue soudain devant moi, sous un souffle mystérieux et puissant, une créature animée et vivante. » Jeanne écoutait plus que jamais sans comprendre. « Que voulez-vous dire ? » murmura-t-elle. Le chevalier poursuivit. « Enfin, je vous ai vu quitter l'étrange et mystérieuse tapisserie dont vous êtes un des personnages. » En face de la singulière et extravagante erreur du jeune homme, il n'était guère possible de tenir son sérieux. Jeanne interrompit Raoul par un frais éclat de rire. « Ah ! » s'écria-t-elle. « Je devine à présent. »« Que devinez-vous ? » demanda monsieur de la Tremblay. Jeanne, au lieu de répondre à la question qui venait de lui être faite, ne prononça qu'un seul mot. « Regardez !» Et tout en parlant, elle fit quelques pas de côté, démasquant ainsi la tapisserie et se plaçant de telle façon que Raoul put envisager d'un seul coup d'œil sa figure et celle de la reine biblique. En face de cette prodigieuse ressemblance, l'étonnement du jeune homme fut tel que son intelligence affaiblie ne lui permit point d'abord de distinguer l'erreur de la réalité et de se bien rendre compte, en voyant à la fois Jeanne et la reine orientale, laquelle des deux était une peinture et laquelle était une femme. Un mouvement de la jeune fille fit cesser cette sorte de mirage. Raoul, à son tour, comprit tout. « Ma pauvre tête ébranlée me rend à moitié fou, » murmura-t-il. « Pardonnez-moi donc, madame, et daignez me dire ce que j'ignore encore, c'est-à-dire où je suis et qui vous êtes. » On se souvient que dans son entretien avec Jacques, M. de La Tremblay, entièrement préoccupé de la mission dont il chargeait ce dernier, n'avait nullement songé à lui demander quelle était la maison dans laquelle il se trouvait et comment se nommaient les maîtres de cette maison. Jeanne répondit avec une simplicité remplie de grâce. « Vous êtes dans un lieu qui s'appelle le Petit Chastel et où l'on a été heureux de pouvoir vous donner une modeste hospitalité. Cette maison appartient à ma mère, Madeleine de Chambard, veuve d'un gentilhomme. Je suis leur unique fille et je me nomme Jeanne. » Et, s'écria Raoul, vous avez poussé la bonté, mademoiselle, jusqu'à me soigner vous-même. Je l'aurais fait dans tous les cas, répondit Jeanne, même quand j'aurais eu à mes ordres de nombreux domestiques. Mais je n'avais guère de mérite, en vérité, à vous soigner moi-même, car ma mère est si pauvre que toute malade qu'elle soit depuis longtemps, elle n'a que moi pour la servir. » En entendant cette touchante réponse, Raoul jeta un regard étonné sur l'ameublement de la pièce dans laquelle il se trouvait. Nous savons déjà que cet ameublement était luxueux, quoique gothique et passé de mode. Jeanne comprit la signification de ce regard. « Vous avez raison, » reprit-elle. « Rien n'annonce ici la pauvreté, et c'est tout simple. Autrefois, nous avons été, sinon riches, du moins dans l'aisance. Aujourd'hui, notre ruine est complète, et tout ce que vous voyez ne nous appartient plus. De sa fortune passée, il ne reste plus à ma mère qu'une seule chose, le droit de demeurer ici et d'y mourir. « Oh, mon Dieu !» s'écria M. de La Tremblay. « Une pauvreté si grande et si peu méritée ?» Il parut hésiter un instant, puis ajouta. « Si j'osais, mademoiselle... » « Quoi, monsieur ?» demanda Jeanne. « Je suis riche, très riche même, et... » Raoul s'interrompit. « Eh bien, monsieur, » fit la jeune fille, « que voulez-vous dire ? Achevez ?»« Peut-être, » reprit le chevalier, « peut-être la somme moyennant laquelle madame votre mère a consenti la vente de cette maison n'est pas énorme. Et alors ?» Raoul s'interrompit de nouveau. « Alors ?» répéta Jeanne. « Si j'osais vous offrir... »« Encore une fois, monsieur, quoi donc ?»« La somme nécessaire pour désintéresser l'acquéreur. »« Mais, monsieur, » interrompit la jeune fille, « à quel titre, je vous prie, me feriez-vous cette offre ?»« La reconnaissance que je vous dois, mademoiselle, n'est-elle donc point un titre suffisant ?» Jeanne pâlit. « Il est impossible, monsieur, » dit-elle, « il est impossible que vous parliez sérieusement. » « Mais je vous jure, » murmura le chevalier. « N'achevez pas, » poursuivit Jeanne. « Il est impossible, vous dis-je, qu'un gentilhomme ose offrir à la fille d'un autre gentilhomme de lui payer l'hospitalité qu'il a reçue chez elle. Cette offre serait une insulte, monsieur, et la reconnaissance, puisque vous pensez m'en devoir, ne s'exprime point par des insultes. » La jeune fille se tut. Raoul la regardait avec admiration. Chapitre 11. Le projet d'un crime. Il y eut un instant de silence entre les deux acteurs de la scène que nous venons de raconter. Jeanne baissait les yeux. Une rougeur ardente venait de remplacer la pâleur accidentelle de ses joues. Son cœur battait violemment et soulevait sa poitrine, chastement voilée par son corsage de laine brune. Elle était tout à la fois ravissante de grâce ingénue et belle d'une fierté sublime. Aussi, nous le répétons, Raoul la regardait avec une admiration enthousiaste. Cependant, il reprit la parole le premier. « Pardonnez-moi, » fit-il, « pardonnez-moi, je vous en supplie, de vous avoir offensé sans le vouloir. »« Je vous pardonne de grand cœur, » répondit la jeune fille. « Est-ce bien vrai, cela ?»« Oui, je vous le jure. » Et dès à présent, je ne me souviens de rien. Merci, mille fois merci, s'écria Raoul, et il tendit à Jeanne sa main brûlante de fièvre. Jeanne se sentit frissonner au contact de cette main. Elle se hâta de retirer la sienne. « Est-ce que je vous effraie ?» murmura doucement le chevalier.
« Oh non !»
s'écria la jeune fille avec une vivacité qui devait trahir le secret de son cœur. Il y eut un nouveau silence, puis Jeanne reprit.
« J'ai dit tout à l'heure que j'espérais être pour vous un bon ange et vous apporter la guérison.
« Je m'en souviens, » fit Raoul.
« Eh bien, je tiens parole. »
Tout en parlant, elle prit sur une petite table la tasse de porcelaine et la présenta au malade.
« Qu'est-ce que cela ? » demanda ce dernier.
« La guérison promise, » répondit la jeune fille.
Raoul reçut la tasse et l'approcha de ses lèvres. Mais sa main se recula presque aussitôt.
« C'est étrange, » dit-il.
« Quoi donc ? »
« On croirait, à l'odeur de ce breuvage, qu'il renferme une dose énorme d'opium. »
« Je ne sais ce que vous voulez dire, »
fit Jeanne, qui en effet ne connaissait pas même de nom la substance que venait de nommer Raoul.
« Cette potion, » demanda ce dernier,
« n'est point la même, n'est-ce pas, que celles qui ont été préparées jusqu'à présent pour moi ?»«
Exactement la même, à l'exception de quelques gouttes d'une liqueur que j'y ai mêlée. »«
Quelle est cette liqueur ?»«
Je l'ignore.
Ma mère la conservait précieusement, et c'est elle qui m'en a conseillé l'emploi. » en m'en vantant les vertus merveilleuses.
« Si vous buvez ce soir, » a-t-elle dit, « demain vous ne souffrirez plus. »«
Ne voulez-vous donc pas boire, monsieur ?»«
Oh !» fit Raoul avec exaltation, « je boirais du poison si ce poison m'était offert par vous. »
Il approcha de nouveau la tasse de ses lèvres et il en avala d'un seul trait le contenu.
« Je savais bien, » murmura-t-il ensuite à voix basse, « je savais bien que c'était de l'opium. »
Puis sa tête tomba en arrière et s'affaissa sur l'oreiller. Pendant quelques minutes encore, ses yeux restèrent largement ouverts, mais fixes et sans expression.
« Souffrez-vous ? »
lui demanda Jeanne avec une sorte d'inquiétude. Il ne répondit pas. Au bout d'un instant, ses paupières s'affaissèrent sur ses yeux. Il parut endormi d'un sommeil calme et profond. Jeanne remonta auprès de sa mère.
« Eh bien ?» lui demanda la malade. « Eh bien, a-t-il bu ?»«
Oui, » fit la jeune fille. « Il a bu. »«
Et maintenant ?»«
Maintenant, il dort. »
Un éclair de triomphe illumina le front de Madeleine.
« Il dort ?» répéta-t-elle. « C'est bon signe. »
Il n'était pas loin de minuit. Une petite lampe allumée par Jeanne et brûlant dans la salle basse éclairait faiblement les traits fatigués du chevalier de la Tremblay. La position du jeune homme était exactement la même que quelques heures auparavant, et il était facile de voir qu'il n'avait pas fait un mouvement depuis qu'un assoupissement irrésistible avait pris possession de lui. Jeanne dormait depuis longtemps dans sa chambre. Les trois habitants du petit Chastel, Madeleine seule, veillait encore. Cette femme, brisée par la maladie et les souffrances, offrait en ce moment la vivante et sinistre image du crime et du remords. Car tous deux se suivent d'habitude, et leur expression se ressemble plus qu'on ne pense. La vieille femme, éclairée d'une façon lugubre par une lampe de nuit qui brûlait dans sa chambre, se soulevait à demi sur son coude. Ses longs cheveux gris, dénoués, couvraient de leurs mèches flottantes son cou et ses épaules décharnées. Ses yeux étincelaient au fond de leurs orbites. Elle semblait prêter l'oreille et tressaillait au moindre bruit. Soudain, sa résolution fut prise. D'un mouvement brusque, elle rejeta loin d'elle ses draps et ses couvertures. Son corps de squelette apparut alors presque entier dans sa hideuse nudité. Puis elle se coula à bas de son lit et elle essaya, à deux ou trois reprises, de se soutenir debout. Mais depuis longtemps, elle avait perdu l'habitude de marcher. Et d'ailleurs, une de ses jambes était à peu près paralysée. Elle tomba d'abord à genoux et ne se releva qu'à grand-peine, et après des efforts inouïs. On eût dit un serpent coupé par morceaux, essayant de réunir ses tronçons dispersés. Une fois debout de nouveau, Madeleine, s'appuyant sur tous les meubles et se traînant plutôt que marchant, se dirigea vers la porte de la chambre de Jeanne, qu'elle atteignit à la longue. À l'aide de son bras gauche, elle se souleva tout à fait, et elle parvint à pousser sans bruit, avec sa main droite, les verrous extérieurs de cette porte, de telle sorte qu'il devenait impossible à Jeanne de sortir de sa chambre. Ceci fait, Madeleine, étendue sur le tapis et rampant le long de la muraille,
car elle ne pouvait plus se soutenir, arriva auprès d'un trophée fixé dans l'un des panneaux de la tenture en cuir de cordoue et formé des armes qui avaient appartenu à Guillaume de Chambard. Là, elle se souleva, ainsi qu'elle l'avait déjà fait à la porte de Jeanne, elle saisit une des armes et elle retomba sur le tapis avec sa proie. Madeleine ne put s'empêcher de sourire en voyant combien le hasard l'avait merveilleusement servie. L'arme qu'elle tenait à la main était un poignard en forme de flamme, dont la lame longue, de près d'un pied et excessivement effilée et tranchante, était pourvue dans son milieu d'une petite rigole pour laisser s'écouler le sang. La moindre blessure faite par ce poignard devait être mortelle. Madeleine en prit la poignée entre ses dents et, se traînant sur les genoux, elle gagna la porte qui conduisait à l'escalier. Cette porte était entr'ouverte. Madeleine, pour l'ouvrir tout à fait, n'eut donc d'autre peine que de la tirer à elle. Chapitre 12. La justice de Dieu. À mesure que Madeleine avançait, ses mouvements devenaient plus lents et plus douloureux. Évidemment, ses forces trahissaient sa résolution énergique. Elle ne se décourageait point cependant, et la pensée ne le venait même pas de renoncer à l'œuvre infernale qu'elle s'était jurée d'accomplir. Il eût été étrange et terrible de voir en ce moment, à la faible lueur d'une lampe presque sépulcrale, cette femme à moitié morte, ce cadavre vivant, ce squelette animé d'un reste d'existence, ramper ainsi sur le sol, avec des mouvements brusques et interrompus, selon que les douleurs de la paralysie se faisaient sentir d'une manière plus ou moins aiguë. À coup sûr, les plus fermes esprits auraient cru à quelque fantastique et horrible vision. Madeleine, nous le répétons, avait ouvert la porte de sortie. Elle se trouva ainsi en haut des marches de l'escalier. Là, ses forces l'abandonnèrent complètement, et ses souffrances devinrent telles qu'il lui fallut, pour comprimer les cris que lui arrachait la douleur, mordre à s'y briser les dents la garde de son poignard. Elle s'assit sur la première marche et elle attendit. Cette crise d'intolérable torture dura quelques minutes. Puis, aussitôt qu'un instant de répit se manifesta, Madeleine se remit en marche et commença à descendre. Dans l'état où se trouvait l'exécrable femme, opérer cette descente était un travail gigantesque. Madeleine, tenant toujours son poignard entre ses dents, afin de conserver le libre usage de ses bras, se soutenait sur ses mains et ses coudes et laissait couler son corps de la marche supérieure à la marche inférieure. Le contact de sa jambe paralytique avec les dalles glacées de l'escalier faisait circuler un froid mortel jusque dans la moelle de ses os et ralentissait de plus en plus ses mouvements. Elle commençait à trembler d'avoir entrepris une tâche qu'elle ne pourrait pas pousser jusqu'à la fin. Déjà, plus d'une fois, elle s'était demandé avec une angoisse croissante « Comment remonterai-je ?» Et cependant, elle avançait toujours. Enfin, elle toucha la dernière marche. Elle se trouvait dans cette espèce de vestibule dont nous avons déjà parlé et qui conduisait à la porte de la rue. Celle de la chambre de Raoul se trouvait sur la gauche, à 10 pas à peine de Madeleine. Un instant encore et elle allait toucher au but. Cette certitude la ranima. Seulement, de la dernière marche de l'escalier à la salle basse, il n'y avait aucun point d'appui et il fallait marcher sans soutien. À la vérité, Madeleine avait la ressource de ramper sur le sol, ainsi qu'elle l'avait fait jusque-là. Mais la lenteur infinie de ce genre de marche effraya son impatience. D'ailleurs, elle sentait son sang battre dans ses artères avec une vivacité fébrile qu'elle prenait pour un retour de vigueur. Elle se cramponna donc à la rampe de l'escalier et elle se leva toute droite. Puis, ne voulant pas se donner le temps de la réflexion, elle détacha ses mains du balustre de fer qui les soutenait et elle s'efforça de marcher. En ce moment, elle dut éprouver ce que ressent le nageur inexpérimenté qui vient de s'aventurer témérairement trop au large dans un endroit profond et qui voit que le courant l'entraîne, que ses forces l'abandonnent, qui voit que son savoir lui fait défaut, enfin que la vague le domine et va l'engloutir pour jamais. Il veut retourner en arrière et gagner un endroit moins périlleux. Il n'est déjà plus temps. L'eau qui l'entoure et qui l'enveloppe comme un froid et inexorable linceul le soulève, l'emporte et refuse de lâcher sa proie. De même, Madeleine, chancelant comme un arbre déraciné, comprit sa complète impuissance. Ses pieds ne pouvaient faire un pas, ses jambes refusaient de la porter en avant. Elle essaya de se retourner. Elle étendit sa main gauche pour se cramponner de nouveau à la rampe de l'escalier. Mais la paralysie venait de s'étendre dans cette main qui retomba inerte sans avoir touché le but. Alors, un éblouissement passa devant les yeux de Madeleine. Il lui sembla qu'elle était ballottée par un vent d'orage au milieu de feux mouvants qui tournaient avec une vitesse prodigieuse. Elle frappa l'air de ses deux bras qui ne rencontrèrent que le vide. Les dalles polies du vestibule lui parurent se dérober sous elle et elle s'abattit de toute sa hauteur, d'abord sur son bras gauche que le poids de son corps brisa comme un verre, puis sur la pointe du poignard que sa main droite avait repris et dont la lame, lui entrant dans la poitrine à côté du sein gauche, en ressortit par derrière entre les deux épaules. Madeleine poussa un cri terrible, un cri surhumain de désespoir et d'agonie. Elle essaya de lutter devant la mort, mais déjà des flots de sang envahissaient sa poitrine et montaient à ses lèvres en écume empourprée. Une suprême convulsion secoua ses membres et tordit son buste. Ses lèvres s'ouvrirent pour pousser un second cri et ne laissèrent s'échapper qu'un jet de sang. Ensuite, ses membres se raidirent, ses yeux tournèrent dans leur orbite. Puis plus rien, pas même un tressaillement, ne vint agiter les fibres du corps étendues sur les dalles. Madeleine de Chambard était morte. Nous ne dirons pas « Dieu et son âme ». Ce serait, nous le croyons du moins, former un souhait trop inutile. Cependant, le cri désespéré de Madeleine était venu troubler Jeanne au milieu de son calme sommeil. Dans le premier moment, la jeune fille crut qu'elle venait d'être le jouet de quelque mauvais rêve et elle essaya de se rendormir. Mais le souvenir de cet horrible cri qu'elle avait entendu la poursuivait sans relâche et enfantait dans son esprit les images les plus lugubres. Elle prit le parti de se lever afin de s'assurer par elle-même du peu de fondement de ses terreurs. Elle sauta donc en bas de son lit, et passant à la hâte les premiers vêtements qui se trouvèrent sous sa main, elle courut à la porte de sa chambre et l'ouvrit. Cette porte résista. Nous savons déjà que Madeleine en avait poussé les verrous du côté opposé. La frayeur et les inquiétudes de Jeanne grandirent aussitôt et semblèrent prendre une terrible réalité. La jeune fille se croyait certaine qu'il était impossible à sa mère de sortir sans aide de son lit. Qui donc avait poussé les verrous de cette porte qui la faisait prisonnière? Quel effrayant rapport y avait-il entre cette porte fermée et le cri que, dans son trouble, il lui semblait sans cesse entendre retentir à son oreille? Jeanne frappa la porte avec ses poings crispés et l'ébranla à deux reprises. Mais la porte était épaisse et les verrous solides. Jeanne comprit qu'elle allait devenir folle si cette situation se prolongeait. Elle cria de toute la force de sa poitrine. « Ma mère ! Ma mère ! » répéta-t-elle une seconde fois avec plus d'énergie encore. Puis, comme l'écho de la nuit lui redisait seul son cri de désespoir, elle perdit complètement la tête et elle s'élança vers la fenêtre qu'elle ouvrit. La nuit était profonde, la route était déserte. Jeanne attacha les draps de son lit à un barreau de fer et sans chaussures à ses pieds nus, sans réfléchir au péril d'une chute presque inévitable et presque mortelle, la jeune fille se laissa couler du premier étage sur la route. Un miraculeux hasard permit qu'elle atteignît le sol sans s'être fait la moindre blessure. À peine ses pieds eurent-ils touché la terre qu'elle prit sa course du côté de Marly la machine avec une vitesse aussi grande que si elle avait été poursuivie par une légion de fantômes. Les cailloux de la route mettaient ses pieds en sang, mais elle ne sentait pas la douleur. Sa poitrine était haletante, mais elle ne ralentissait pas sa course. Enfin, elle atteignit la première maison. Elle tomba contre la porte de cette maison en gémissant. La force lui manquait également pour appeler et pour frapper.